Aiguillet, puis Nathalie Arthaud. Je passe la parole à Jean-Pierre Mercier.
Camarades et amis, du point de vue des travailleurs, l'événement le plus réconfortant de l'actualité est certainement la victoire de la grève générale en Guadeloupe. Complète, car il reste encore à imposer les 200 euros d'augmentation à la partie récalcitrante du patronat. Les négociations se poursuivent par ailleurs avec les grandes chaînes de distribution pour la baisse des prix d'un certain nombre de produits de première nécessité. Ainsi, la lutte continue. Elle continue, comme en Martinique, pour exercer une pression sur les négociations quant à l'application concrète de l'accord. Et depuis hier, ce sont les travailleurs de La Réunion, autre département d'outre-mer à l'autre bout de la planète, qui sont entrés en lutte. En Guadeloupe, il aura fallu 44 jours de grève générale pour que le gouvernement et une partie du patronat local cèdent et accordent 200 euros d'augmentation au plus bas salaire, revendication qui tenait le plus à cœur des grévistes. Ils ont obtenu également le gel des loyers, la réduction des tarifs des transports interurbains, la baisse du prix du carburant, de l'eau, de la taxe d'habitation, ainsi que des embauches et la transformation de certains emplois précaires en emplois stables. Au bout de plus de 6 semaines, les grévistes ont donc imposé l'essentiel des revendications formulées depuis le début de la grève. Ils y sont parvenus parce qu'ils ne se sont pas contentés d'actions symboliques pour protester contre la hausse extravagante des prix et la baisse du pouvoir d'achat que cela représente pour les travailleurs mal payés. Ils ont eu la volonté et le courage de se lancer dans une grève générale illimitée. Ils ont eu la détermination de la poursuivre jusqu'à ce que le patronat et le gouvernement cèdent. Leur mouvement a bénéficié depuis le début du soutien de la quasi-totalité de la population, mis à part une poignée de privilégiés. Cette évidence a fini par apparaître même à travers les informations télévisées qui, inexistantes pendant la première période de la grève, ont ensuite surtout parlé des malheurs des touristes privés d'essence et donc de déplacement. Ce constat n'a cependant pas empêché ceux qui nous gouvernent de remettre en route le disque usé des grévistes prenant la population en otage. Alors que, dans les faits, les grévistes, c'était la population elle-même. La grève a rapidement trouvé sa forme d'action. En premier lieu, les manifestations quotidiennes. Dans ce pays où dominent les petites entreprises, voire les très petites, les manifestations ont servi, jour après jour, à montrer la force du mouvement, aussi bien aux grévistes eux-mêmes qu'au camp du patronat et du gouvernement. Il n'y a jamais eu dans le passé de manifestations aussi puissantes, certaines d'entre elles entraînant jusqu'à 50 000 personnes, plus de 10% de la population, enfants et vieillards compris. Chaque manifestation a été une démonstration de force et l'enthousiasme qu'elle suscitait un encouragement à continuer. La grève générale a trouvé une autre forme d'action, celle des barrages. Quand ils ont commencé à être mis en place, la grève générale était déjà solidement installée. Seuls les porte-voix du patronat et du gouvernement pouvaient affirmer que la grève ne se poursuivait qu'à cause des barrages et donc des difficultés à se rendre au travail. De plus, la participation massive de la population à ces barrages, constituée de branchages, de vieux pneus, de frigidaires cassés, de débris de voitures et parfois de blocs de ciment, a fait qu'ils n'ont pas seulement servi à empêcher la circulation et le transport des marchandises, mais qu'ils ont été également des lieux de discussion où se retrouvait la population d'un quartier, d'une zone d'habitation, chacun apportant sa contribution à leur édification. Les barrages se sont multipliés partout. Lorsque la police commençait à en démonter un, les habitants du voisinage en érigeaient plusieurs autres, parfois sous le regard des policiers. Il y avait toujours du monde sur les barrages pour expliquer les revendications à ceux qui tentaient le passage, en filtrant pour que puissent passer ceux qui en avaient besoin, malades, médecins ou pompiers. Pendant plusieurs semaines, la seule réponse des autorités a été de faire venir de métropole des escadrons de gendarmes et de gardes mobiles. Et c'est d'ailleurs cette intervention de la police qui a été le facteur déclenchant des violences dont a été victime un militant connu de la CGTG, Jacques Binot. Eh bien oui, une population déterminée a pu contrecarrer un patronat qui la volait doublement, à la fois en augmentant les prix des produits indispensables et en payant des salaires insuffisants. Le MEDEF, qui regroupe en Guadeloupe les entreprises les plus florissantes et les patrons les plus riches, a refusé de signer le protocole d'accord de fin de grève. Il a pourtant largement de quoi payer l'augmentation de salaire, d'autant plus que pour le moment, ce sont l'État et les collectivités locales qui en financent les trois quarts. Et pour les grands patrons, parmi lesquels il y a à la fois les béquiers, les descendants des anciens maîtres d'esclaves, mais aussi ceux des grandes entreprises de métropole, c'est une question de principe. Ils tiennent à démontrer qu'ils ne cèdent pas sous la pression des travailleurs. Mais en fait, ils démontrent surtout leur arrogance et leur mépris des travailleurs. Mais le fait que le MEDEF fasse des contre-propositions accordant des augmentations du même ordre que ce qu'exigeaient les grévistes montre que la grève générale a obligé tous les patrons, même les plus réactionnaires, à tenir compte des revendications. Que le MEDEF signe ou pas l'accord, les grévistes ont la ferme intention d'obliger les patrons à augmenter les salaires de 200 euros. C'est pourquoi, si la grève générale est officiellement arrêtée en Guadeloupe, le mouvement n'est pas fini pour autant. Il a continué d'abord sous la forme de ce qu'on appelle là-bas la grève marchande, qui consiste en ceci, que plusieurs centaines de travailleurs regroupés entrent dans une entreprise ou dans un centre commercial pour contraindre le patron, membre du MEDEF, à accorder les 200 euros. Dans l'hôtellerie, où se trouve une bonne partie des entreprises non signataires de l'accord, la grève continue, avec occupation et piquets de grève. Reste aussi à imposer aux super et hypermarchés les baisses de prix. Les négociations continuent encore à ce sujet. Mais parallèlement, les dirigeants de la grève, à juste raison, ont fait appel à la population pour qu'elle contrôle, jour après jour, les prix dans les grandes surfaces et donne l'alerte dès que la direction des magasins triche. L'idée fait son chemin. Lorsque la population est mobilisée, bien des choses deviennent possibles, y compris le contrôle des prix. Les dirigeants de la grève ont souligné, après avoir signé l'accord, que la lutte n'est pas terminée et qu'il faut que la population, que les travailleurs restent mobilisés. Ils ont tout à fait raison. Les revendications des grévistes ont été au fond modestes. Mais bien au-delà de ce qui a été obtenu grâce à la grève générale, ce qui compte aussi, et peut-être surtout, c'est le changement de rapport de force que cette grève a imposé. Le patronat local, aussi avide qu'arrogant, soutenu non seulement par l'administration locale, mais aussi par les sommets de l'État, devra tenir compte de ce changement. Personne ne peut prédire combien de temps va durer ce changement de rapport de force. Mais nous faisons confiance aux travailleurs aussi bien de Guadeloupe que de Martinique pour qu'ils restent solidaires entre eux et qu'ils réagissent collectivement contre les mauvais coups des patrons qui, une fois la grève finie, chercheront à reprendre l'avantage. Un autre élément de ce changement de rapport de force a été aussi que cette grève générale et les attitudes respectives des patrons, des autorités locales et nationales et des élus de toute obédience ont constitué un formidable instrument de politisation ou, comme on dit dans la région, de conscientisation. D'autant plus que les premières négociations, tout au début de la grève, ont été intégralement filmées par une télévision locale, vues et commentées par tout le monde. On a pu ainsi suivre, en direct, l'arrogance des patrons, la lâcheté des représentants du gouvernement et le double langage de bien des élus. Et ça, camarades, ces choses-là, ça ne s'oublie pas facilement. Et je profite de ce meeting pour informer que l'association antillaise Continuité LKP, qui soutient ici le LKP de Guadeloupe, ainsi que le collectif du 5 février de Martinique, appelle à une manifestation demain samedi de République à Nation. Le rendez-vous est à 14h, place de la République, et bien sûr, nous vous appelons à y participer très nombreux. Ce qui s'est passé en Guadeloupe et en Martinique, et qui n'est pas tout à fait fini, nous concerne bien au-delà de l'expression d'une solidarité. Les travailleurs de Guadeloupe et de Martinique sont une partie du monde du travail, une partie de nous-mêmes. Ils ont été les premiers à se lancer dans la lutte. Leur grève générale a montré qu'il faut beaucoup de courage et de détermination pour faire reculer patronat et gouvernement. Mais il n'y a pas d'autre voie. Le patronat ne lâchera rien sans y être contraint. Il ne lâchera rien, sauf s'il craint de perdre bien plus que cela lui coûterait de satisfaire ce qu'il sera nécessaire d'imposer pour préserver l'emploi et le pouvoir d'achat. Patronat et gouvernement nous répètent que c'est la crise et qu'elle est mondiale. Ils le répètent en manière d'excuse, l'air de dire « s'il faut réduire le nombre d'emplois, bloquer les salaires, voire les baisser, c'est pour des raisons indépendantes de leur volonté ». Comme si, bien avant que la crise prenne le caractère aigu qu'elle a depuis quelques mois, il n'y avait pas eu des licenciements et des suppressions d'emplois, comme s'il n'y avait pas eu le blocage des salaires, voire l'effort permanent de les baisser, ne serait-ce qu'en remplaçant les travailleurs en CDI par des intérimaires, des salariés en CDD. Alors oui, ce qu'on peut et ce qu'on doit empêcher, c'est que les maîtres de l'économie, les groupes industriels et bancaires qui sont responsables de la crise, la fassent payer intégralement aux travailleurs qui n'y sont pour rien. Ce qu'il faut empêcher, c'est que les plus riches continuent à s'enrichir avec l'aide de l'État au détriment des classes populaires. On ne peut pas compter sur le gouvernement, même pour répartir un peu les sacrifices entre la classe capitaliste et les salariés. Sarkozy et les siens, comme tous les autres gouvernements de ce monde capitaliste, sont corps et âme au service de la bourgeoisie possédante. Si les travailleurs ne veulent pas payer les frais de la crise, il faut qu'ils imposent les revendications indispensables pour ne pas être poussés vers la misère et la déchéance. Pour empêcher les licenciements et l'aggravation du chômage, il faut imposer la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. Il faut augmenter les salaires, mais aussi les pensions de retraite, comme les allocations de ceux qui ne sont pas en situation de travailler. Ça dépend bien sûr de l'argent, oui. Mais l'année dernière, en cette année 2008, où la crise a pris la proportion que l'on sait, les plus grosses entreprises françaises, celles du fameux CAC 40, ont distribué à leurs actionnaires des dividendes qui se montent à 54 milliards d'euros. Eh bien, il faut imposer que l'argent pour financer le maintien des emplois et pour augmenter les salaires soit pris sur les profits passés et présents. Il serait utopique de croire qu'il est possible d'imposer ça au patronat et au gouvernement sans une grève générale illimitée, c'est-à-dire jusqu'à satisfaction de ses exigences. Les directions syndicales, qui ont tergiversé pendant des semaines après la journée du 29 janvier, ont tout de même fini par appeler à une nouvelle journée de grève et de manifestation pour le 19 mars. Nous y appelons bien sûr, et il faut que chacun de nos camarades, dans chacune des entreprises où nous sommes présents, fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que la participation à la grève, comme aux manifestations, soit la plus massive possible. Mais cette nouvelle journée, même réussie, ne sera considérée comme une menace par ceux qui dirigent l'économie et l'État qu'à condition qu'elle soit une nouvelle étape dans la mobilisation. Le patronat et le gouvernement peuvent faire le gros dos devant une seule journée. Même si les patrons perdent de l'argent, ce qu'ils perdent n'est pas grand-chose à côté de ce qu'ils tirent en permanence de notre exploitation. Alors il faut que le patronat et le gouvernement sentent qu'il s'agit de plus que ça. Les travailleurs qui font marcher l'économie ont aussi les moyens de l'arrêter. Alors camarades, il faut que toutes les actions qui expriment le refus des bas salaires et des licenciements convergent vers la grève générale.